Bonsoir. C'est toujours très gai quand je peux inviter ici un collègue de l'université. Et c'est le cas même s'il est collègue, il enseigne dans de nombreuses universités. Philippe de Stadt est historien. Au départ, il s'est spécialisé dans l'histoire de la Russie et des pays slaves. Et puis, il est allé à l'Institut d'Estrée, où il a fondé, en 86 déjà, le Centre interuniversitaire d'histoire de la Wallonie et du mouvement wallon. Il a publié, attaché à cette question, de nombreux ouvrages. L'encyclopédie du mouvement wallon avec Paul Delforge et Micheline Libon. Il a également écrit l'identité wallonne, essais sur l'affirmation de la Wallonie 19e-20e, et il fait le 8e volume de la nouvelle histoire de la Belgique. Alors il enseigne donc l'histoire de la Belgique, de la société et des institutions à l'université de Mons. Il est aussi formé à la prospective en France et aux États-Unis, et il enseigne cette discipline-là à Paris Diderot et à Reims. Voilà, et aujourd'hui, il nous parle de la révolution industrielle. Voilà, je lui cède tout de suite la parole.
Merci Anne pour ces trop gentilles paroles. J'ai remarqué à la deuxième phrase le « déjà », 1986 déjà, ce qui nous met évidemment dans une perspective de ce que, je l'évoquerai, Fernand Braudel appelle la longue durée. Tout le plaisir est pour moi d'être ici à l'extension de l'UMONS et d'avoir l'occasion aussi de saluer le travail qui est fait sous ta direction, parce que je pense que c'est un travail vraiment très 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 important et qui fait rayonner l'UMONS. Merci. Mesdames, Messieurs, lorsque l'on parle évidemment de révolution industrielle, on parle d'un concept qu'on utilise dans des moments différents, que l'on utilise depuis longtemps et que l'on utilise dans des disciplines différentes. On en parle en histoire, bien évidemment, mais effectivement, on en parle en prospective. Donc ceux qui, les chercheurs, qui essayent de construire une vision de l'avenir. Et il ne suffit de nous prendre un ouvrage tout à fait récent, qui est un best-seller au niveau mondial, publié en 2011, « La troisième révolution industrielle » par l'Américain Jeremy Rifkin, qui est probablement un des Américains qui connaît le mieux l'Union européenne et qui y vient souvent. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cet ouvrage ? Il nous dit, eh bien, tel qu'il y a eu une première révolution industrielle au début du XIXe siècle, avec le charbon, il y a eu une deuxième révolution industrielle fin du XIXe siècle avec le pétrole et l'électricité, et puis nous arrivons vers une troisième révolution industrielle. Et ça, c'est un discours que l'on connaît depuis, et que vous avez entendu depuis les années 1960. Cette troisième révolution industrielle, si on admet l'idée de troisième, et je vais y revenir, eh bien, c'est celle qui ferait suite à la révolution de l'information, la révolution qui ouvre sur les sociétés de l'information, telles qu'on en parlait dans les années 60 et 70, ou plus tard, dans les années 1980 et 90, et même aujourd'hui, la société de la connaissance, grâce à une révolution. Alors on met « industriel » entre guillemets, évidemment, on parle aussi de révolution cognitive qui nous amènerait vers une société cognitive dans laquelle nous serions. Et donc nous sommes constamment en train, c'est le cas des chercheurs, de décrire ce que nous voyons et de nous disputer aussi sur les concepts. C'est quoi une révolution industrielle? De quoi est-ce composée? Et là, les sociologues sont arrivés avec l'idée que c'était un changement majeur de la société. Les chercheurs dans les sciences exactes sont venus dire que c'est de l'innovation, c'est un changement technologique. Les économistes ont dit non, pas du tout, c'est un changement avant tout économique. Et donc, de quoi s'agit-il? Ben, on peut essayer de chercher, on s'est disputé évidemment sur un concept qui est très important, puisque révolution industrielle ouvre sur l'idée de société industrielle, et lorsqu'on parle de société industrielle, on perçoit le capitalisme, l'histoire du capitalisme, et là, on parle de philosophie, voire de politique. Qu'est-ce que le capitalisme aujourd'hui? Comment s'est-il construit? Vous voyez que c'est un concept qui ouvre une multitude de portes et que, sur lesquelles on peut se disputer pendant longtemps. Et puis arrive un certain nombre de chercheurs, des historiens, des économistes, au début des années 1980, et qui vont débusquer un texte qui est fabuleux et qui va être éclairant. Ces chercheurs, bien, c'est l'équipe de l'histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle. Ouvrage publié au début des années 1981, déjà, sur l'essai sur la révolution industrielle en Belgique, 1770-1847. Et parmi ces chercheurs, on a Pierre Lebrun, chercheur à l'Université de Liège, et surtout Marinette Bruet, dont certains d'entre vous ont entendu parler, chercheur et professeur dans cette université. Il y a aussi Jan Dont, chercheur en Flandre, et Georges Ansot, archiviste à Liège. Et il débusque un texte qui vient d'un certain Nathalys Briavoine, qui a écrit un mémoire pour l'Académie en 1839. Nathalys Briavoine, né à Paris fin du siècle précédent, 1794, journaliste, chercheur, intellectuel, et qui amène tout un mémoire, dont vous voyez un petit extrait, avec une phrase. Vous voyez, il est en 1839 et il dit « Dans la seconde moitié du siècle dernier, une marche plus rapide fut imprimée à l'esprit humain. Les connaissances reçurent une direction tout à la fois plus vive et plus pratique. Phénomène remarquable, à l'époque même où toutes les classes et presque tous les peuples en Europe se précipitaient avec furie les uns contre les autres, nous étions à l'époque des guerres napoléoniennes ou des guerres de la fin du XVIIIe siècle, accumulant d'immenses efforts pour s'entre-détruire, partout en même temps on se montra saisi d'un plus grand désir d'améliorer. Cette passion prit alors un si grand empire parmi les hommes et les doigts de ressources si fécondes qu'une guerre de 25 ans accompagnée de convulsions intérieures ne put arrêter le progrès dans toutes les branches de l'organisation matérielle de la société. Dans toutes les branches. C'est qu'au milieu de cet immense désordre, la sphère du travail s'agrandissait. Les moyens d'exécution allaient en se multipliant, en se simplifiant chaque jour davantage. L'on vit en conséquence la population s'accroître par la diminution des chances de la mortalité. Les trésors que la terre renferme furent mieux et plus abondamment exploités. L'homme produisit et consomma davantage. Il devint plus riche. Tous ces changements constituent la révolution industrielle. Et c'est la première fois qu'on utilise le mot en 1839. Et il nous donne la réponse, c'est que ce n'est pas un problème technologique, la révolution industrielle. Bien sûr, et on va l'évoquer, l'invention de la machine à vapeur est un facteur déterminant. Bien sûr, et on va l'évoquer, les changements dans la sphère de la société, notamment tout ce qui se passe en Angleterre et en France, vont être déterminants. La guerre, il l'évoque, la production, il l'évoque, la consommation, il l'évoque. Tout ça compte, mais comme des facteurs qui sont parmi d'autres. Mais c'est tous ces facteurs réunis qui constituent la révolution industrielle. Nous avons des lunettes aujourd'hui où on parle, et on en a parlé beaucoup avec la crise, la dernière crise, de crise systémique. On est dans un changement de système. Et on tient là une définition de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est une mutation profonde de toutes les sphères de la société. C'est un changement majeur, pas uniquement dans un domaine de l'économie ou de la science ou de la psychologie, ou de la culture, ou autre chose. C'est un changement majeur. Et quand je dis ça, je donne un poids évidemment très lourd à la révolution industrielle, et je vous fais passer un message, c'est que des révolutions industrielles, il n'y en a pas toutes les semaines. Et qu'on peut même s'interroger sur le fait qu'il y en ait eu trois. Parce que, finalement, passer de l'énergie primaire qui est le charbon à une énergie qui est le pétrole, ben, le changement, il ne va pas changer toutes les sphères de la société. Ce sont les mêmes machines que l'on va adapter. Et dans la mentalité des gens, ça ne va pas changer fondamentalement leur vie et l'ensemble du système. Même si on passe à l'énergie nucléaire, ça ne le change pas nécessairement. Et lorsque l'on passe à des mécanismes où au lieu d'avoir l'information dans le journal, on l'a sur Internet, où au lieu d'utiliser le téléphone, on envoie un tweet, est-ce que ça change fondamentalement le système dans lequel on se trouve? Ça contribue évidemment à accélérer l'esprit humain, mais mon analyse, c'est que ça ne change pas fondamentalement, et que nous sommes toujours aujourd'hui, eh bien, dans la société qui a été créée par cette révolution industrielle, où l'industrie reste un élément important. Alors, il y a là une porte de l'actualité qui est l'industrialisation. Est-ce qu'on survivra à la fermeture de la sidérurgie ou des choses comme ça? Ça reste un élément important. On va peut-être vers autre chose, il y a des mutations, mais jusqu'à présent, on peut s'interroger pour voir si ces mutations sont aussi systémiques ou si ce n'est pas de la régulation, si ce n'est pas une simple adaptation. Pour nous aider à le comprendre, on peut faire appel à un des plus grands historiens européens. Je dis un des plus grands historiens européens et on l'oublie. C'est Fernand Braudel. On l'oublie en Europe, on ne l'oublie pas aux États-Unis. Vous chercheriez en vain un centre d'études Fernand Braudel sur le continent européen, vous en trouverez aux États-Unis. Et pourtant, c'est un Français. Fernand Braudel est celui qui a eu un apport majeur à l'histoire, qui était celui de dire qu'il faut dépasser les événements, dépasser les faits, qui ont évidemment leur importance, mais il faut porter le regard sur la longue durée. Il faut porter le regard sur le temps long. Et dans un ouvrage majeur, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, publié en 1979, il disait « Parfois aussi rarement de grandes ruptures interviennent. La révolution industrielle en est une, assurément. Mais je soutiens à tort ou à raison qu'au travers de cette grande mutation, le capitalisme est resté pour l'essentiel semblable à lui-même, la règle n'est-elle pas pour lui et par nature de se maintenir par le changement même? Et on sait que la première finalité d'un système, je vous ai parlé de système, c'est la pérennisation du système. Vous pouvez chacun créer un système et vous verrez qu'il essaiera de se pérenniser. L'erreur serait d'imaginer le capitalisme comme un développement par phase ou bon successif, capitalisme marchand. Et il a décrit le capitalisme marchand, qui nous vient de la longue durée, qui nous vient ben, à partir du moment où on a quitté une économie purement agraire, et donc il faut remonter loin, ben, au 10e, 11e siècle, au moment où on commence à créer des villes, ben, progressivement, on va constituer un capitalisme marchand. Et nous savons que nous avons eu, nous, un de ces capitalistes marchands, un peu plus tard, vers le XVIe siècle, dont le nom a encore été retenu à Liège, Cursus, hein, le musée Cursus, parce que c'était un capitaliste de niveau européen, mais capitaliste marchand. Et donc, capitalisme marchand, capitalisme industriel, capitalisme financier, etc. Tout ça ne sont pas des phases, tout ça nous paraissent des bons, mais en réalité, ce capitalisme a la même nature, et à certains moments, il nous apparaîtra à la même époque plus marchand, il nous apparaîtra à la même époque plus industriel et il nous apparaîtra à la même époque plus financier. et je vais le montrer au travers de la révolution industrielle. Troisième idée, elle nous vient d'un autre historien français, plus ancien, Henri Say, qui était professeur à l'université de Nantes. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les origines du capitalisme moderne », publié en 1926. Et il nous dit, finalement, que de tous les facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, eh bien, il y a des facteurs qui peuvent être plus déterminants que d'autres. Et une question aussi essentielle que celle que l'on se pose souvent, et je l'ai cru pendant longtemps, pourquoi a-t-on créé à un certain moment des manufactures ? Pourquoi a-t-on créé à un certain moment des ateliers ? Pourquoi ? Ben parce que dans le capitalisme que nous décrit au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle Fernand Braudel ou beaucoup d'autres, ou Hervé Asquin, par exemple, dans sa thèse de doctorat, pour la région de Charleroi, dans ce capitalisme du XVIIe, du XVIIIe siècle, eh bien, on sait qu'on a un capitalisme et une économie industrielle, qu'on qualifie d'ailleurs de proto-industrielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est placée un peu partout, et notamment dans les campagnes. Premièrement, parce que les campagnes, c'est là où il y a des rivières, bien souvent, et dans les rivières, on peut mettre des forges qui vont fonctionner à l'énergie hydraulique. Et donc, avec ces forges, on va pouvoir faire une première sidérurgie. Et donc, toute une série d'entreprises, comme on les appelle aujourd'hui, vont se créer dans les campagnes. Et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir travailler à certaines périodes de l'année dans ces industries, et à d'autres, on travaillera au champ. Ce seront les mêmes personnes qui travailleront d'un à l'autre. Et puis, on sait très bien, à un certain moment, que tout le monde va se regrouper, que toutes ces populations industrielles vont se regrouper dans des villes, dans des manufactures. Et on se dit, mais pourquoi ce regroupement ? L'exode rural, c'est bien connu. Pourquoi ce regroupement ? On a dit, mais bien sûr, parce qu'il y a des machines qui vont venir. Lorsqu'on met des machines à vapeur, on va les mettre dans les villes. Et on va regrouper la population autour de ces machines à vapeur. Donc c'est l'industrialisation. Non, non. Ce que Say nous dit, ce n'est pas l'industrialisation, c'est un autre facteur. L'industrialisation, la technologie peut jouer, mais ce qui joue aussi, c'est simplement la complexification des procédés. C'est que ce que l'on fabrique devient plus complexe, devient plus compliqué aussi, et qu'il va falloir assembler au même endroit un certain nombre de processus de construction de produits. Et c'est plus à cause de ça qu'à cause du facteur technologique que l'on va se retrouver dans les villes. J'attire votre attention aussi, et ça c'est peut-être une dernière remarque préliminaire avant d'entrer dans la révolution industrielle. C'est que, et Pierre Lebrun et Marinette Bruet, et c'est probablement Marinette Bruet quand vous voyez le contenu qu'ils l'ont montré, c'est qu'à nouveau, ce n'est pas la machine à vapeur qui est déterminante dans le temps, même si elle nous éclaire à quel moment on va instaurer un machinisme, un système de machines dans une entreprise. Il y a avant des pompes à feu, et ces pompes à feu sont installées dès le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle, et ce sont des machines qui ne répondent pas nécessairement à la même production que le feront les machines à vapeur, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui fonctionnent quand même assez bien. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous roulez avec des 6 cylindres que vous ne pouvez pas encore, on en voit de plus en plus ressortir, avoir une Renault R4 ou avoir de temps en temps une 2 chevaux sur la route. Il y a encore des machines, des pompes à feu, on en trouve encore au début du XXe siècle, par exemple, à Charleroi. Et évidemment, c'est un exemple qu'on peut donner en disant que les entreprises ne se sont pas nécessairement adaptées au progrès technique, assurément. Mais ça attire notre attention sur le fait qu'avant même la révolution industrielle, il y a ici, dans le Borinage, un certain nombre de machines qui ont été implantées et qui n'ont pas elles-mêmes constitué cette mutation que l'on va évoquer tout à l'heure. Dans mon exposé, après cette introduction que je viens de vous présenter, je vais évoquer les grandes périodes de la révolution industrielle. Et dans la première période, en amont de la première période, si vous voulez, je vais revenir sur les causes, les circonstances qui ont favorisé cette révolution industrielle. Et puis les quatre étapes qui vont s'accélérer parce que les premières sont plus longues et plus lourdes. Et puis les dernières sont plus courtes, plus rapides. Et puis j'arriverai sur une forme de conclusion, de bilan. Je reprends en cela la périodisation qui a été décrite par l'équipe de Pierre Lebrun. Alors, que nous dit Pierre Lebrun? Mais il nous dit, parce qu'il a lu Braudel et qu'il voit clairement l'importance de la longue durée, que si on essaie de décrire la révolution industrielle, on peut avoir, si vous voulez, trois sortes de lunettes. Une lunette qui nous permettra de voir loin, et ça nous amène, je l'ai dit tout à l'heure, vers le 11e, le 16e siècle. Et donc ça, c'est le temps long de la révolution industrielle. Et on peut dire finalement que à partir de l'âge du fer, ben, on avance vers la sidérurgie, c'est-à-dire à la fin de l'âge de la pierre. Donc on pourrait même remonter jusqu'au néolithique, et il l'évoque. Et puis il y a la périodisation vraiment précise de cette révolution industrielle. Et il prend quatre étapes à partir de 1770, avec une étape préparatoire, puis 1798-1834, qui est l'étape des décisions et réalisations majeures par les chefs d'entreprise. Et donc là, il y a un facteur qui est un acteur majeur, qui est celui de la prise de décision. À un certain moment, de dire, eh bien, j'ai observé qu'il y avait un système, j'ai observé quelque chose qui ressemble à ce que Nathalie Briavoine nous a dit, eh bien, je prends la décision, c'est l'investisseur, c'est celui qui dit, eh bien, je me lance, je mets des capitaux, et je suis la recette qui m'est donnée, et nous verrons par qui. Et puis, après avoir fait ça, il y a un mécanisme qui fonctionne, avec un certain succès, et donc tout le monde se dit, quand je dis tout le monde, j'exagère, un certain nombre de personnes se disent, eh bien, on va faire la même chose, puisque ça marche. Et donc, on s'emballe de 1834 à 1839, et comme tout le monde essaye de faire la même chose, eh bien, on est sur un marché, le marché va se saturer, et très rapidement, on va arriver vers une crise. Et puis, très courte. Et puis, à partir de 1839, 1847, jusqu'en 1847, on retombe sur ses pieds, et on peut dire qu'à ce moment-là, le système est en place, et je dirais même plus, le système capitaliste est en place. J'attire votre attention sur le fait que cette périodisation, c'est celle qui a été faite pour la Belgique. Et je le montrerai à plusieurs reprises, certainement pour la Belgique, mais aussi, et vous le verrez, certainement pour la Wallonie, ou plus particulièrement pour la Wallonie, parce qu'il faut faire la distinction entre les deux. Et dans cette période 1798 à 1834, il y a évidemment le moment technique, technologique important, qui est l'adoption des machines dans les régions entraînantes. Si je vais un peu plus loin, vous voyez que l'esprit d'entreprise s'est développé pendant le temps long. Que pendant la période plus courte qu'on pourrait appeler le XVIIIe siècle, c'est constitué un stock de connaissances et de tours de main. Et ça, c'est extrêmement important. La révolution industrielle pourra se faire parce qu'il y aura, je l'ai dit, des investisseurs, des gens qui prendront la décision d'investir des capitaux, mais aussi parce qu'ils ont un terrain favorable, avec des matières premières, bien sûr, mais ils ont un terrain humain favorable. C'est-à-dire que si on peut faire de la sidérurgie ici, pour prendre un exemple, ou si on peut investir dans le textile ici, c'est parce que, depuis des siècles, il y a des gens qui ont appris des tours de main. Et ces tours de main se transmettent. Et assez rapidement, on peut faire en sorte que cette culture industrielle soit valorisée. C'est extrêmement important. Et je le reporte aujourd'hui, on sait très bien que ces tours de main qui sont difficiles à mettre en place, où il fait longtemps pour qu'il y ait un capital humain, eh bien, ça peut être balayé en quelques années où il n'y a plus de capital humain. Je reviens sur la question de la sidérurgie que j'évoquais tout à l'heure. Lorsqu'on s'est posé la question il y a quelques semaines en disant « Tiens, va-t-on rouvrir une sidérurgie autonome en Wallonie ou sur Liège ?» Eh bien, un des facteurs qui apparaissait, c'est « A-t-on encore le capital humain, c'est-à-dire des sidérurgistes comme il y en avait à l'époque, est-ce qu'on en trouve encore capable de faire le travail qui n'est plus fait pour le moment dans ces lieux-là ?» Voilà un regard sur la chronologie, et je le complète pour vous montrer deux choses, pour vous montrer que on ne peut pas parler dans le vide, c'est-à-dire en se détachant des réalités, et les réalités, ce sont les secteurs économiques dans lesquels on se trouve. Et ce tableau, eh bien, il reprend pour la période 1798 à 1834, c'est-à-dire le cœur de la révolution industrielle. Pour chacun des secteurs, et ils sont numérotés, vous voyez, en chiffres romains, le coton à gants, la filature de lin à gants, la laine à Verviers, la métallurgie liégeoise, les charbonnages à Liège, le zinc à Liège, les charbonnages à Mons, à Charleroi, la métallurgie à Charleroi, les verreries à Charleroi, la finance et la politique à Bruxelles. À quel moment, eh bien, on a commencé à implanter le nouveau système technologique, le nouveau système humain? Et à quel moment on peut considérer qu'il est implanté, c'est-à-dire que la mutation a eu lieu dans le secteur. Et vous voyez qu'il y a donc des régions entraînantes qui vont se succéder. Elles se succèdent, on voit que, évidemment, ce n'est pas linéaire. Et alors, il y en a une particulière sur laquelle j'attirerai votre attention plus tard, qui est un peu différente des autres secteurs, c'est le point 11, la finance et la politique à Bruxelles, et qui va être liée à une autre révolution qui est d'une autre nature, qui est la révolution de 1830. Parce que le système politique va faire partie, évidemment, de ce système financier. Et il ne faut pas décloisonner ces deux parties que vous avez dans votre esprit. Ceux qui vont prendre le pouvoir à Bruxelles dans ces années-là, vous le voyez, 1830-1831, ce sont les mêmes, bien évidemment, que ceux qui vont faire la révolution chez nous. En tout cas, ceux qui vont investir, ceux qui seront les entrepreneurs, ceux qui seront les capitalistes. Et c'est pour ça qu'ils vont à la fois, eh bien, prendre le pouvoir à leur profit et instaurer un système politique qui fasse en sorte qu'il soit plus ou moins durable pour eux, c'est-à-dire qu'il ne le sera pas, mais qui fasse en sorte que ceux qui possèdent, ceux qui payent un niveau d'impôt restent au pouvoir, c'est ce qu'on appellera, et Philippe Raxon nous l'a rappelé il y a 15 jours, eh bien, le pouvoir censitaire, le sens étant le niveau d'impôt. Donc, ce sont un certain nombre de gens qui payent un haut niveau d'impôt qui pourront être non seulement électeurs, mais aussi éligibles. Et puis, deuxièmement, ils vont utiliser l'État au profit de leur projet qui sera la révolution industrielle. Et ne pensez pas, parce que nous avons des schémas comme ceux-là, qu'instaurer le capitalisme serait instaurer un système uniquement lié au marché et dans lequel l'État n'interviendrait pas. Ici, c'est tout le contraire. On va mobiliser l'État au profit du projet qui est de faire cette révolution industrielle. Et vous verrez que la mobilisation est majeure. Dernier mot, qui sont ces gens? Où sont-ils? Eh bien, pendant toute la période d'instauration, il reste un nombre constant. Alors, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui rentre et un certain nombre qui sort, comme dans les bons vaudevilles. Hein? Mais le nombre d'entrepreneurs reste constant. Et lorsque vous voyez ses patrons dans les activités entraînantes de 1800 à 1846, vous voyez, ils ne sont pas très nombreux. Il y en a 93 sur Gand et ce pôle industriel, Gand-Anvers. Il y en a, pour Mons-Borinage-Centre, il y en a 117. Il y en a 394 sur Liège. Et il y en a 351 sur Verviers. Verviers qui va être le premier lieu vraiment de cette dynamisation. Donc, très peu d'entrepreneurs finalement. Et le nombre d'ouvriers, eh bien, le nombre d'ouvriers reste constant aussi. C'est-à-dire que, vous le voyez, ils sont sur Mons Borinage Centre Charleroi, j'ai oublié Charleroi tout à l'heure, Charleroi, vous en avez 37 000, vous en avez 22 000 sur Liège, 15 000 sur Verviers, et vous en avez 9 784 sur Gand, Anvers. Et j'en profite pour évoquer ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous voyez le nombre d'entrepreneurs, lorsque vous voyez le nombre d'ouvriers, cette révolution industrielle, majoritairement, vous le savez, elle se fait sur le bassin Aisne, Sambre, Meuse, Vesdre, c'est-à-dire sur ce qui deviendra plus tard la dorsale wallonne. C'est là que le poids majeur va se constituer avec, je l'ai dit tout à l'heure, et on y reviendra, la création d'un pôle à Bruxelles à partir de 1830. Je viens sur la première étape, en évoquant tout d'abord mais quelles sont les circonstances qui vont favoriser la révolution industrielle dans cette période. Eh bien, ce sont les puits d'extraction du Grand Ornu vous connaissez, les charbonnages fondés par De Gorges et Le Grand. Alors, le premier facteur, c'est évidemment la révolution industrielle anglaise. Les Anglais sont les premiers à faire la révolution industrielle. Vous voyez ici Manchester au début du 19e siècle, Manchester, Liverpool, c'est lieux, finalement, où on va appliquer la technologie. Et la technologie, je l'ai déjà évoqué, ben vous le connaissez, c'est un élément nouveau. C'est une amélioration de la pompe à feu par deux Anglais, James Watt et Matthew Boulton. Alors, dire que c'est eux deux, ben souvent, pendant longtemps, on disait que c'était uniquement James Watt, et puis on dit c'est Boulton. Et si je voulais être complet, il faudrait que je vous cite une quinzaine de noms. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a tout un environnement au niveau européen où les gens cherchent, comme aujourd'hui dans la recherche, même si la recherche est d'une nature différente, mais on essaye d'améliorer les produits. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fait des reproches à James Watt parce qu'on dit finalement, il a toujours interdit à ses collaborateurs d'utiliser la vapeur sous pression. Et s'il avait utilisé la vapeur sous pression, il aurait été beaucoup plus malin et il aurait gagné 20 ans. Hein, si pas 30 ans, si pas 50 ans. Donc, évidemment, c'est toujours assez facile de faire la leçon a posteriori. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des chercheurs qui, à un certain moment, vont améliorer un système technologique qui va être majeur. Pourquoi ? Parce qu'il va produire de l'énergie qui va permettre d'améliorer considérablement des activités qui existaient depuis longtemps. Je vous parle du charbon. On extrait du charbon depuis le XIIIe, XIVe siècle chez nous. La difficulté, ben vous la connaissez, c'est de creuser. Et puis plus on creuse, plus on a des difficultés. La difficulté majeure, c'est que dans les zones charbonnières, plus on creuse, plus on tombe sur de l'eau. Et de l'eau, ben il faut écoper. Et écoper, ça devient très vite un problème majeur. Remonter le charbon, etc., c'est pas facile, surtout si on augmente la productivité. Mais le problème de l'exor, comme on l'appellera, va devenir un problème majeur. Donc il faut une pompe, et une pompe qui a une grande capacité. Eh bien, la machine à vapeur va permettre ça. Même chose, en sidérurgie, on va avoir besoin, pour les forges, d'avoir des appareils qui travaillent avec des cadences importantes. Et puis le textile, qui est le premier qui va vraiment utiliser le charbon, on est dans des logiques de concurrence, où on a besoin de fabriquer des indiennes, comme on l'appelle, des tissus pour un marché qui est vraiment très concurrentiel, et on a besoin d'avoir des machines qui soient extrêmement performantes. Et on va utiliser ces machines, on va les améliorer progressivement. James Watt, on a retenu son nom, principalement parce que c'était le pire de tous en matière de brevets, mais Peut-être qu'on doit retenir la leçon, c'est notre regard, mais c'était le plus malin en matière de brevets. Il avait cette capacité de déposer des brevets qui soient suffisamment précis pour protéger ses produits et suffisamment flous pour s'approprier les produits des autres. C'est une personnalité qui est assez étrange. Donc ça, c'est un apport de la révolution industrielle anglaise. Deuxième apport, apport théorique majeur, mais c'est celui d'un philosophe, on va dire comme ça, économiste, c'est évidemment Adam Smith, professeur à l'université de Glasgow, auteur de recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, et qui nous donne une recette. C'est un extrait de son livre, mais on comprend tout de suite. Aussitôt qu'il y aura des capitaux accumulés dans les mains de quelques particuliers, certains d'entre eux emploieront naturellement ces capitaux à mettre en œuvre des gens industrieux, auxquels ils fourniront des matériaux et des substances, afin de faire un profit sur la vente de leurs produits ou sur ce que le travail de ces ouvriers ajoute de valeur aux matériaux. Quand l'ouvrage fini est échangé, ou contre de l'argent, ou contre du travail, ou contre d'autres marchandises, il faut bien qu'outre ce qui pourrait suffire à payer le prix des matériaux et les salaires des ouvriers, il y a encore quelque chose de donné pour les profits de l'entrepreneur de l'ouvrage qui hasarde ses capitaux dans cette affaire. Ainsi, la valeur que les ouvriers ajoutent à la matière se résout alors en deux parties, dont l'une paye leur salaire et l'autre les profits que fait l'entrepreneur sur la somme des fonds qui lui ont servi à avancer ses salaires et à la matière à travailler. Et puis on va discuter, évidemment, pendant tout le XIXe siècle, et encore pendant le XXe siècle, on en discute encore, pour dire, et c'est quoi la partie profit? Est-ce qu'elle varie? Est-ce qu'elle est fixe? Est-ce que la variable d'ajustement, c'est le salaire? Ou est-ce que c'est le profit, c'est la rémunération du capital? Là, vous avez toute l'économie politique qui est résumée en quelques lignes. Une généralisation que l'on a dit magique, de quelque chose qu'il observe simplement, qui est devant lui, et qui sera vraiment la recette, comme la recette de la bouillabaisse. On prend le livre d'Adam Smith et on lit les pages, on dit ben, il faut faire ça. Et on va s'en inspirer. Il va constituer une référence majeure. Et ça, c'est très important, et j'y reviendrai, parce que le rapport avec les Anglais va être un rapport particulier. Les Anglais sont ceux qui ont la technologie, qui améliorent la technologie. C'est ceux qui ont les ouvriers qui maîtrisent la technologie, les ingénieurs qui le font, des gens qui ont des capitaux et des gens qui ont la recette. Et donc on regarde vers l'Angleterre comme on peut regarder aujourd'hui ou depuis 25 ans vers la Silicon Valley ou vers la Corée ou vers d'autres endroits. On les copie. Avec une difficulté majeure, c'est qu'on est, on va faire partie de, et je vais y arriver dans un instant, de cette période où on sera en guerre contre l'Angleterre, puisque nous serons ici dans l'Empire français. Et donc les Anglais, c'est l'ennemi. Et si on veut faire venir des ingénieurs venant de l'ennemi, c'est pas évident. Et donc il va y avoir tout un travail en stummelings, comme on dit à Bruxelles. On va faire venir ces gens-là en fraude, on va essayer de les débaucher, on va essayer de voir leurs produits, de faire venir leurs produits et de le multiplier ces produits. Et ce n'est pas par hasard qu'un grand nom nous vient à l'esprit, John Cockerill, c'est un Anglais qui va venir ici. Et il y en a des dizaines comme lui, bien évidemment. J'y viens, autre facteur, ben j'ai parlé de la France, eh bien, c'est la Révolution française. La Révolution industrielle peut se dérouler parce que la transformation de la société française qui va nous être appliquée est une transformation majeure. Philippe Raxon l'a évoqué il y a 15 jours, au travers d'un certain nombre d'événements, et le principal, c'est la nuit du 4 août 1789. L'abolition des privilèges. Où on balaye l'ancien régime, où on balaye le système des corporations, on balaye toute cette hiérarchie qui existait et qui faisait que si vous vouliez devenir sidérurgiste, eh bien, vous deviez faire une espèce de baptême, comme on dirait aujourd'hui, vous deviez être bizuté, vous deviez faire des cérémonies, vous deviez faire toute une série de choses pour pouvoir entrer dans la corporation des sidérurgistes, des forgerons, etc. Et on ne le faisait que, vous ne pouviez y entrer que si vous montriez que vous êtes capable, non pas d'innovation, mais que vous êtes capable de reproduire ce que eux faisaient, ce qu'on appelait le chef-d'œuvre. Ce qui veut dire que nous étions dans une société qui était bloquée. Ce qui va donner une capacité d'innovation extraordinaire, c'est qu'on va balayer tout ça dans l'Ancien Régime. On va permettre que tous les métiers soient accessibles à tous, que chacun puisse faire le métier qu'il veut, qu'il puisse se lancer dans n'importe quelle entreprise. Et avec des effets pervers, évidemment, à la Convention, la loi Le Chapelier, c'est celui qui va, si vous voulez, balayer l'Ancien Régime, et vous le voyez, l'anéantissement, article 1 de sa loi, de toute espèce de corporation des citoyens du même État ou profession, étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. Et puis, les citoyens d'un même État ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouvent ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leur prétendu intérêt commun. Monsieur Burgeon, c'est l'interdiction des syndicats, évidemment, des corporations, des mutuelles, même des caisses de secours. La caisse de secours qu'on peut avoir en disant, oui, on va mettre chacun cotisé parce qu'il pourrait nous arriver un accident. Freddy, sa jambe est partie dans la machine, donc si ça arrive, il faut pouvoir aider. Non, interdit. Pas question que les ouvriers se coalisent. Et puis on va plus loin. Article 8. Tout attroupement composé d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre service de l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré ou contre l'action de la police, et l'exécution des jugements rendus en cette manière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis, selon toute la rigueur des lois, sur les auteurs, instigateurs et chefs des 10 attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence. Ça va passer dans le code pénal de l'Empire français, article 415 du Code pénal de 1810, et comme vous le savez, le Code Napoléon va passer dans notre législation. Et donc nous sommes, bien évidemment, sous la coupe de ceci, et ça va durer jusqu'en 1866. Il faudra attendre 1866 pour avoir l'abolition de l'article 415 du Code pénal en Belgique. Alors, je ne suis pas en train de faire l'histoire du mouvement social. Je vous dis, ça, c'est un facteur de réussite de la révolution industrielle. Parce qu'on donne une liberté au patronat, on donne une liberté aux entrepreneurs, eh bien, d'utiliser leur main-d'œuvre comme ils l'entendent. Et ceux qui ne sont pas contents, eh bien, ils sont passibles de la baïonnette et du sabre. L'homme qui fait ça, c'est Napoléon, et qui va, dans sa législation, faire beaucoup d'autres choses. Il va créer l'école des mines, par exemple, parce qu'il dit qu'il faut des ingénieurs, des gens qui sont capables. Il va, on le sait bien, c'est lui qui va, à cause du blocus continental, essayer d'y répondre en lançant la betterave sucrière. Donc on est dans des logiques où le pouvoir va essayer de répondre à un certain nombre de problèmes, mais son problème majeur, c'est le développement économique. Et vous allez dire, et nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Nous, on est dans un changement politique et institutionnel qui est majeur. À Jemappes, ici tout près, l'insertion des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège entre dans un vaste marché continental protégé, la victoire de Jemappes, des troupes françaises à Jemappes en 1792, et constitue eh bien, la victoire des armées révolutionnaires sur l'Autriche et puis l'appui à la révolution liégeoise. Alors bien sûr, les Autrichiens vont revenir, on va être battus à Neerwinden, mais les Français vont revenir, c'est la bataille de Fleurus, et puis ben, leur attachement à la France, à la République, au consulat, à l'Empire, et on est dans ce système. Et on est dans un système qui est, quand je dis marché protégé, vaste marché protégé, ben c'est l'Europe napoléonienne. Et l'Europe qui s'étend évidemment ben, jusqu'en Russie pratiquement, et l'Europe qui essaye dans cette lutte contre l'Angleterre de conquérir absolument toutes les côtes pour empêcher les produits anglais de venir sur le continent. C'est la tentative de Napoléon d'étouffer l'économie anglaise. Et comme les Anglais ont pas mal de problèmes ailleurs aussi avec les États-Unis, eh bien, il se dit, je vais y parvenir. Et il mènera d'ailleurs une partie de sa politique vis-à-vis du Portugal ou vis-à-vis du Danemark, en fonction, et même vis-à-vis de la Russie, en fonction de cette volonté qu'il a, eh bien, de faire en sorte qu'on bloque partout les côtes pour empêcher les machines de débarquer, pour empêcher surtout les produits de nous parvenir. Et ça, c'est un facteur majeur. Pourquoi ? Parce que nous, lorsqu'on a ici à Liège ou ici au Grand Ornu, on a des machines à vapeur et que les Anglais ne peuvent plus les débarquer, on n'a plus de concurrents. J'ajoute que Napoléon aime bien les équipements militaires pour mener sa politique et que nous sommes des fabricants d'armes depuis des générations. J'en ai parlé avec Cursus tout à l'heure, qui était le grand munitionnaire du roi d'Espagne. Et donc, pour nos entreprises, c'est extraordinaire. On a un marché, on a un système militaire qui a besoin de canons, qui a besoin de fusils, etc. Et on fabrique des armes, on fabrique du fer, on fabrique toute une série, des uniformes, on fabrique toute une série de produits qui sont très rapidement cassés, démodés, et que l'on doit continuer à fabriquer. Ça, c'est la chance pour notre économie. Parce que sur le continent, ce qu'on met en place n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que ni en France, ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas, vous n'avez ce rassemblement, cette contingence de facteurs propices et favorables comme on en a dans cette région. Quatrième circonstance tout à fait importante, indépendante de notre volonté, eh bien, c'est l'accroissement démographique remarquable. Vous allez dire, mais vous auriez dû mettre des champs de blé ou autre chose. Non, parce que le facteur majeur à l'époque, et de nos jours, on comprend mieux que lorsque j'essayais de l'expliquer à des étudiants il y a 10 ans, c'est le changement climatique. C'est que on a vu qu'à partir de 1710, eh bien, l'ensoleillement redevient important en Europe et dans le monde, et cet ensoleillement favorise le développement de l'agriculture. C'est-à-dire qu'après les dizaines d'années d'été pourri, où on n'arrivait pas à développer une agriculture importante, parce que vous avez des étés pourris, vous avez des mauvaises récoltes, vous avez des petites récoltes en volume, vous n'arrivez pas à sélectionner les grains, vous êtes obligé de prendre des petits grains pour les ressemer l'année suivante, pour avoir encore un été pourri, etc., eh bien, vous avez un problème majeur de subsistance de la population. Et puis, tout à coup, vous avez, à partir de 1710, et pendant plusieurs décennies, une amélioration du climat due à une reprise de l'activité solaire. Je le dis toujours à mes étudiants parce que souvent à l'examen ils me disent l'activité scolaire. Non, solaire. C'est le soleil qui est remarquable et qui permet, bien évidemment, vous le voyez ici, l'activité solaire encore, ben, sur la période 1715-1735, après une période qui a été vraiment très très mauvaise. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir améliorer l'agriculture, mieux sélectionner les grains, Et on va améliorer l'agriculture par toute une série de moyens et de produits importants. Ce qui va permettre à la population de s'accroître. Et que toute la population ne soit plus affectée à la subsistance, aux champs, mais que vous ayez des surplus de population qui vont pouvoir être affectés à l'industrie. Il y a là un changement démographique qui est majeur et qui permet, si vous n'avez pas de population, vous n'avez pas de travailleurs, vous ne pouvez pas développer votre industrie. Les progrès de l'infrastructure, cinquième facteur favorisant. Ici, c'est une partie du canal Mons-Condé, hein, une des parties qui n'a pas été redéveloppée. Je pense qu'elle est sur la frontière. Donc, le développement des canaux, Napoléon, évidemment, va jouer un rôle, mais surtout Guillaume d'Orange. On a un Hollandais là qui va venir et qui va dire il faut des canaux, il faut installer des canaux parce que c'est l'avenir pour lier les entreprises et qui va faire des investissements qui seront considérables. Et puis, bien sûr, les chemins de fer. Première ligne de chemin de fer, ben ici, on l'a rappelé ces dernières années, Saint-Guilain-Ornu, avant même les lignes voyageurs, d'abord avec des chevaux, et puis avec de la vapeur. C'est modeste au départ, mais ça va prendre une ampleur considérable. Et je vous disais tout à l'heure, effectivement, que c'est là que l'investissement de l'État va être le plus considérable, puisque en 8 ans, de 1835 à 1843, 560 km de lignes sont fabriquées, sont investies par l'État, 80 gares, 143 locomotives, 2500 wagons, 138 millions de francs de l'époque sont investis pour faire un réseau de chemin de fer. Ici, ça va jusqu'en 1913, mais extrêmement maillé, où une partie des lignes, celles qui sont le plus enfoncées, sont des lignes, les 560 km qui sont investis par l'État, mais où on fait des concessions, là où il y a des petits numéros, à des lignes privées. C'est-à-dire que lorsqu'un charbonnage dit « mais moi j'aimerais bien qu'on me relie au canal de Mons-Condé ou qu'on me relie à ceci », on dit « ben pas de problème, vous pouvez le faire. Si c'est rentable, ben vous faites l'investissement ». Et ils font l'investissement, certains seront repris par l'État, d'autres pas, d'autres vont dépérir. Mais on est là, et on est les premiers du continent à nouveau à se lancer là-dedans. Et quand je dis tout à l'heure que c'est un investissement de ceux qui décident, c'est surtout à partir de 1830 que l'investissement a lieu. Et faire un investissement majeur, mais la retombée est directe. Quand je dis qu'on fait des 1000 km de rails, ben, il faut les produire dans les entreprises sidérurgiques. Quand on dit qu'il faut faire des dizaines de machines à vapeur, des centaines ou des milliers de wagons, tout ça est produit sur place. Et donc c'est une structure de changement de structure à l'intérieur du changement de système, si vous voulez, et qui favorise, qui va vraiment booster ce changement. Et non seulement on va utiliser les ateliers de Cockerill pour faire ces locomotives sur le modèle anglais à nouveau. On en a fait venir une, et puis on a fait comme les Japonais qu'on caricaturait après la guerre, quand on disait qu'on faisait venir une montre, qu'il la démontait, qu'ils en fabriquaient 2 millions, eh bien, c'est la même chose. On fait venir en fraude des machines à vapeur, le dernier cri, on voit comment elle a été fabriquée, et puis on commence à en fabriquer en plus grand nombre. Et on va la fabriquer dans d'autres endroits aussi, parce qu'on va se dire à un certain moment, à Mons, pourquoi les fabriquer, pourquoi les acheter à Liège? On peut les fabriquer sur place, on est assez malin, on a la capacité, c'est rentable, et donc on va aussi le faire de cette manière-là. Sixième facteur important, l'édification de manufactures destructrices de l'organisation du travail à domicile. Eh bien, à nouveau, le Grand Ornu, parce qu'on va faire ces espèces de casernes dans lesquelles on va pouvoir mettre les ouvriers et les surveiller. Ça va être un changement de mentalité gigantesque. Avant, les gens, ben, quand ils voulaient s'arrêter, ils s'arrêtaient. Quand ils voulaient repartir, ils allaient au champ. Il n'y avait pas de problème. Ils arrangeaient. Ils devaient produire un certain nombre de clous ou de casseroles ou autre chose. Il n'y avait pas de problème. Ici, c'est différent. On entre, on est surveillé et on a derrière soi des contremaîtres qui vous surveillent. Vous devez consacrer votre temps au travail et à des rythmes qui sont particuliers. Et évidemment, ça change complètement la société. J'évoquais le fait qu'on allait fabriquer des machines à vapeur au Grand Ornu en 1835, pour prendre un exemple local. Donc vous voyez, cette première période, qui est une période qui est la période la plus importante, des circonstances favorables, mais les circonstances qu'on met ensemble, une recette qu'on utilise, un modèle sur lequel on s'ajuste, l'Angleterre, et puis on va prendre un certain nombre de décisions et de réalisations majeures. C'est la période 1798-1834. Et l'élément, je vous l'ai déjà dit, et vous le saviez déjà avant d'entrer ici, c'est l'installation du premier ensemble mécanisé à Serein. C'est le lancement de Cockerill, qui ne sort pas de rien. Il s'inspire de l'utilisation des machines à vapeur déjà à Verviers dans le domaine textile. Mais ici, il va construire, et il ne sera pas le seul, il y aura Cockerill, il y aura Orban, il y aura Lamarche. Ils sont une série d'entrepreneurs qui créent des entreprises qui vont très rapidement faire de la concentration verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire que dans la filière, on va acquérir ce qui est en amont et ce qui est en aval. Et puis horizontale, eh bien, on va acheter des concurrents, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils ont des marchés, soit parce qu'ils ont des innovations, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation ouverte. On se dit, tiens, eux, ils ont une technologie intéressante. Eh bien, on les fait entrer dans son giron et on s'étend horizontalement. Et on fait des grandes puissances industrielles avec des logiques de concentration que Marx a bien décrit, d'ailleurs, dans son ouvrage sur le capital. Et puis, des dynamiques semblables dans les Hainaut. Les ateliers Parmentier, par exemple, qui donnent naissance en 1838 à la Société anonyme des forges, des fonderies de Haine-Saint-Pierre. On peut aussi prendre les ateliers Brison, ici aussi, de machines à vapeur à Morlanway. On peut évidemment prendre, et dans cette maison, ça me paraît naturel, la dynastie Waroquier, qui est intéressante parce que elle montre aussi quel est le chemin et le cheminement. Avec les premiers, avec Isidore, avec Nicolas, on est sur des gens qui sont très proches des Français, donc qui finalement travaillent avec les biens nationaux, on bénéficie des logiques, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais la confiscation des biens du clergé va, dans une certaine mesure, on ne va pas le faire pour la noblesse chez nous, mais pour le clergé, c'est une réalité, permet de récupérer des couvents. À Cockerill, il s'installe dans un ancien couvent. Donc, il y a aussi des espaces. Hein, donc, on bénéficie de ça. On a des armées. Venir, comme Isidore, à un certain moment, pouvoir être celui qui fournit les armées de l'empereur, ça se mérite. Il y a des marchés. Mais les marchés... Vous vous rendez bien compte que le gouvernement à Paris favorise ceux qui voient le gouvernement et les Français avec plaisir et ne va pas donner des marchés à ceux qui ronchonnent, comme on dirait, parce que il y a l'armée française qui est chez nous. Donc, ils vont jouer là-dessus aussi. Les Waroquais vont jouer là-dessus aussi. Donc, de marchands de charbon, ils vont devenir financiers. Et puis, connaissant les deux métiers, ils vont investir... sur Morlanway, comme ici, dans dans toute l'industrie charbonnière, et puis ils vont s'ouvrir aussi à d'autres choses, jusqu'à arriver à Raoul Waroquier, où là on est sur un financier pur qui va faire des investissements et qui va jouer une dimension internationale, une dimension de mécène, une dimension d'homme politique, enfin, vraiment une dynastie de poids vraiment extrêmement importante. Donc, on a le moyen, on a la technique, on a la recette, on l'utilise, et je vous ai donné quelques bons exemples, Mais il y a plein d'exemples comme ça, parce qu'à un certain moment, on va dire, bon, on va tous faire la même chose. Et on va jouer sur ce caractère, évidemment, financier. Il y en a qui vont devenir des financiers purs, hein, qui vont utiliser ces nouveaux, parce qu'il y a aussi cette innovation qui n'est pas que dans les secteurs. Il y a une innovation financière qui se met en place aussi. Les lettres de change, les effets de commerce, les actions industrielles, tout ça, eh bien, c'est lié aussi à la fois à des manières de faire, des nécessités d'obtenir des capitaux, des gens qui se spécialisent dans ce domaine-là. Et c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est important parce que on vit sur un marché. Et ça, ça fait partie de ce que nous a dit Adam Smith. La seule limite à l'expansion, c'est le marché. Et donc, quand le marché se réduit, quand la concurrence est très grande, celui qui l'emporte, mais c'est celui qui a une capacité de laisser ses produits à l'extérieur, en stock, si vous voulez, tout en continuant à payer un minimum ses ouvriers pour maintenir ses équipements et à maintenir de l'activité pendant que les autres ne peuvent plus le faire. Et ça, ben, c'est deux sortes de gens. C'est soit ceux qui ont les reins solides au point de vue financier, soit ceux qui ont une image telle qu'ils peuvent obtenir du crédit parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on sait qu'ils sont les meilleurs ou parce qu'on sait qu'ils ont derrière eux toute une série, soit, et ça existera aussi, de capitaux matériels. Bien souvent, je ne l'ai pas évoqué, mais au début, la réaction de ces grands capitalistes sera un peu la réaction des nobles de l'époque. C'est-à-dire qu'on fait du profit et puis on l'investit dans des terrains. On se dit au moins ça gardera de la valeur. Et donc, il y en a qui vont se ruiner parce que le terrain, en temps de crise, ils ne pourront pas le réaliser. Vous voyez? Donc, ça, il y a une ingénierie qui est extrêmement importante au moment de l'emballement. Et dans cette ingénierie, il y a le développement de la société anonyme. C'est-à-dire que, je l'ai évoqué tout à l'heure, les banques vont jouer ce rôle de pouvoir mettre du crédit à disposition, mais parfois, ils vont dire, si vous n'avez pas me payer, je vais prendre des parts dans votre entreprise. Et donc, en prenant des parts dans des entreprises qui étaient des entreprises familiales, mais qui avaient les reins solides, eh bien, se développe un type de relation entre les entreprises et les banques qui va être de nature nouvelle. Et va jouer un rôle important là-dedans, c'est la Société Générale. La Société Générale, mise en place par Guillaume d'Orange, et qui va être reprise au moment de la Révolution, si vous voulez, et va jouer un rôle pendant la Révolution. Parce que la Société Générale de Guillaume d'Orange, elle est en lien avec la Société Générale à Paris, qui est en lien avec la Banque Rothschild à Londres. Et je fais une petite parenthèse, la Révolution belge ne pourra se réaliser aussi en 1830 que parce qu'à un certain moment, on va donner du crédit au gouvernement provisoire. Vous faites une révolution, notamment dans un contexte de crise économique, les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent du pain. Ben, si vous ne leur donnez pas du pain, votre révolution, elle ne tient pas 3 jours. Et quand vous, ou bien vous êtes richissime, mais personne ne l'est à ce point-là, ou bien vous obtenez du crédit aussi. Et le gouvernement provisoire de Belgique va pouvoir obtenir du crédit, paradoxalement, à Paris, mais avec l'aval de Londres. Or, aujourd'hui comme hier, ou hier comme aujourd'hui, la Banque Rothschild de Londres ne paye pas des révolutionnaires à Bruxelles s'ils ne reçoivent pas le feu vert du gouvernement britannique. Même si le Premier ministre britannique à l'époque, c'est Wellington, le vainqueur de Waterloo. Donc celui qui a conçu le système diplomatique qui est en place. Et donc à un certain moment, l'économie remonte au niveau diplomatique, et si on donne le feu vert à Londres, c'est qu'on regarde aussi ce qui se passe en Belgique, et particulièrement sur le bassin Sambre-Meuse, et qu'on y voit un intérêt économique par rapport à ces industries qui se développent et qui font concurrence à Londres, on se dit, si on pouvait nous-mêmes investir là-dedans, si on pouvait nous-mêmes travailler avec ces gens-là, ben, on aurait une capacité d'action plus grande. Or, vous allez dire, mais où est la clé? Ben, la clé, c'est simplement que Guillaume d'Orange, dans le royaume des Pays-Bas, 1815-1830, avait une politique protectionniste. C'est qu'il refusait aux capitaux anglais de s'investir à la bourse de La Haye. Les Anglais ne lui pardonneront pas ça, évidemment. Et donc, ils vont être les premiers à donner de l'argent, comme ils seront ceux qui enverront leur flotte pour venir chasser les Hollandais d'Anvers, pour rouvrir, évidemment, le commerce maritime et surtout ne pas laisser pistolet pointé sur Londres aux mains de gens qui ne leur seraient pas favorables. Donc, c'est une parenthèse sur la géopolitique, mais qui est dans ce contexte. S'il n'y avait pas eu de révolution industrielle, s'il n'y avait pas eu ce bassin, probablement que les choses n'auraient pas évolué de la même façon. Donc cet emballement, au travers des mécanismes bancaires, des prises de participation, de création de sociétés anonymes, débouche sur quoi, et qui est très important, c'est que la décision économique qui appartenait aux chefs d'entreprise qui étaient dans les bassins, va passer largement aux banques dès la révolution industrielle. Et le lieu de centralisation des banques, ce n'est pas à Mons, ce n'est pas à Charleroi, ce n'est pas à Liège. Les sièges de la Société Générale, les sièges de l'ensemble des grandes entreprises bancaires, ben, elles vont s'installer où est le pouvoir depuis 1831, elles vont s'installer à Bruxelles. C'est le pôle financier dont je vous parlais tout à l'heure, lié au pôle politique, mais qui va avoir un impact extraordinaire pour nous. C'est-à-dire que tant qu'on sera encore rentable dans le bassin, ben les flux continueront, les investissements, les ouvertures de crédit continueront à venir. Et puis quand on sera moins, ben moins qu'en Flandre, ou moins qu'au Brésil, ou moins qu'en Inde, ben on dira ben pourquoi le mettre là, puisqu'on peut le mettre ailleurs. Il va y avoir un changement dans le modèle financier qui est extrêmement important. Ces deux textes l'évoquent avec l'appui de Nathan et James Rothschild à la Révolution belge, mais je pense que vous avez compris le mécanisme de cet emballement financier qui a comme impact, évidemment, que ne tiendront que les entreprises les plus solides et celles qui ont des crédits. Et puis on entre dans l'étape finale, l'étape de consolidation, qui fait que la structure a changé, on est dans un système capitaliste, avec des entreprises plus ou moins solides, avec de la production, du marché, tous les ingrédients, avec des problèmes. Les problèmes, le plus majeur, et on ne peut pas ne pas l'évoquer, c'est celui de la classe ouvrière, évidemment, du travail des femmes, qui sont plus rentables que les hommes sur un certain nombre, vous allez me dire surtout, mais ici particulièrement sur un certain nombre de choses précises, qui coûtent surtout moins cher. C'est le travail des enfants. La photo, évidemment, est plus tardive, puisque c'est une photo de Gustave Mauricio du début du siècle. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la Belgique, au travers de sa révolution, eh bien, dans la hiérarchie des puissances industrielles et pendant tout le XIXe siècle, au rapport au niveau de développement économique, eh bien, elle va être la deuxième, suivant l'économiste Paul Béroc, elle va être la deuxième puissance industrielle en 1810 du monde, en 1840, en 1860, en 1880, et puis en 1900, les États-Unis vont être ex aequo avec l'Angleterre, donc la Belgique sera troisième, et puis elle sera encore troisième en 1910, et puis elle va tomber au fond du panier après la guerre 14-18, puisque 14-18, c'est le démantèlement réel de toute notre économie, puisque nous sommes un des rares pays qui soit occupé complètement pendant la guerre, et les Allemands vont tout démonter, ce qui peut être une chance, mais une chance très provisoire. les choses vont changer après 14-18, notamment le charbon va commencer à s'épuiser, tandis qu'on va en découvrir en Campine. La sidérurgie va aussi changer de nature. Donc on entame, et certains observateurs le voient, à partir du début des années 1900, on entame, si vous voulez, un déclin dans lequel on ne sortira que dans les années 1980, ce qui ne veut pas dire qu'on soit remonté dans le pinacle, vous le savez bien. Et ce qui est important de voir aussi, je vais dans le mauvais sens, c'est que lorsque l'on voit, lorsqu'on analyse le taux de croissance moyen entre la Wallonie et la Belgique de 1849 à 1874, vous voyez que dans la plupart des secteurs, eh bien, le taux de croissance de la Wallonie est supérieur à celui de la Belgique, ce qui veut dire que le développement industriel, et je vous apprends rien, il se fait en Wallonie, vous le voyez ici, dans cette comparaison. Alors un mot qui est un regard d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce système n'est pas un système durable. C'est un système, on n'aura pas beaucoup de témoignages à l'époque, mais c'est un système que les historiens étudient de plus en plus. Ici, Isabelle Parmentier de l'Université de Namur, sur l'histoire de l'environnement au pays de Charleroi, eh bien, décrit les pollutions, les nuisances dans notre système en voie d'industrialisation. Et ce sera d'ailleurs étudié dans un certain nombre de domaines sur la durabilité des études qui ont été faites dans ce domaine-là. J'en viens à ma conclusion. Ma conclusion, un peu plus académique, si vous le permettez. Un premier point, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'ouvriers dans les activités entraînantes reste constant de 1800 à 1846. Donc toute cette révolution se fait avec environ 90 000 à 100 000 ouvriers. Et la croissance de la production, elle a été assurée par donc cette différence de production considérable, par le machinisme, par l'implantation des machines. Ça représente, ces ouvriers en 1846, 3% de la population active totale, mais ils devaient représenter 6% de la valeur ajoutée au niveau national. Alors on a calculé, quand je dis on, eh bien c'est l'équipe de Histoire quantitative et développement, ils ont calculé les investissements de la révolution industrielle belge dans les secteurs entraînants, qui s'élevaient à 1165 millions de francs belges de 1798 à 1847, c'est-à-dire si on comptabilise les 100 millions qui ont été investis dans le chemin de fer. Donc l'investissement brut, y compris l'amortissement, ne dépasse pas 2% du produit national. Donc en jouant sur des marges, on obtient des changements systémiques qui sont importants. Alors qu'est-ce que ça leur a rapporté? Eh bien la plus-value capitaliste pour cette période-là, 1798 à 1847, atteindrait les 2500 millions de francs, c'est-à-dire plus du double du coût total de la révolution industrielle. Le système s'est autofinancé avec un nombre d'entrepreneurs qui était relativement réduit. On aurait aimé être un de ces entrepreneurs, évidemment, pendant cette période. Aspect moraux mis sur le côté. L'accumulation du capital au niveau des entreprises et des banques, évidemment, entraîne une sous-rémunération d'une partie de la population. Et donc, c'est le problème de cette réserve, cette armée de réserve de chômeurs dont parle Marx, et qui fait qu'il y a une exploitation de la force de travail. Et je vous ai dit le rôle que le système politique et social, au travers de la loi Le Chapelier, au travers des mécanismes que la France a ouverts, des institutions et des régulations que la France a permis, et que nous maintiendrons, bien évidemment, le plus longtemps possible, jusqu'en 1866 au moins, mais on peut prendre d'autres critères, le livret d'ouvriers, le truck system, le temps de travail, le droit de suffrage. Bon, il y a évidemment toute une série, mais c'est une autre conférence. À partir de 1833, sous l'impulsion de Ferdinand de Meus, la Société Générale transforme les entreprises industrielles les plus endettées parmi ses clients en sociétés anonymes. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, elle va jouer un rôle important. Elle suit professeur à la VUB qui a co-dirigé la nouvelle histoire de Belgique, indique qu'une part importante de l'industrie wallonne tombe ainsi aux mains des banques, de la banque, qui devient une institution mixte et sera à la base des plus puissants holdings du XIXe siècle. Il faut noter que ce que j'ai appelé tout à l'heure cette ingénierie financière est tout à fait unique dans l'industrie européenne. Et puis finalement, eh bien, la durabilité, je l'ai évoqué, eh bien, le système, il dégrade les écosystèmes. Il y a des pollutions d'ampleur quantitative et qualitative qui n'ont jamais été atteintes. Et il y a eu une étude particulièrement intéressante de Paul-Marie Boulanger sur les structures industrielles du borinage, publiée par la DRAS et l'Institut pour le développement durable, qui retournait étudier eh bien, tous ces mécanismes d'industrialisation au borinage au XIXe siècle, mais avec... C'est de l'anachronisme en plein, on peut dire, puisqu'ils prennent les lunettes d'aujourd'hui et ils disent « Est-ce que le système est durable? Quelles sont les conditions de sa durabilité ?» Et ils arrivent à une analyse qui dit que le système n'était pas durable. Et ils vont un peu plus loin même et ils disent « La preuve que le système n'était pas durable, c'est qu'aujourd'hui, l'industrialisation, elle est complètement morte dans cette région. Elle n'est pas complètement morte, mais elle n'est plus, évidemment, à la hauteur de ce qu'elle a été. » Dans ces périodes-là, elle n'a pas su rebondir dans une reconversion qui était importante. Voyez cette révolution industrielle, mais à la fois elle nous est très très proche. Elle nous est très très proche parce que géographiquement, c'est cette région-ci. Et si on était à Namur, on pourrait prendre des exemples plus namurois, on pourrait le faire à Liège, on pourrait le faire à Verviers, on pourrait le faire dans une certaine mesure dans la province du Luxembourg, où il y a eu aussi, en termes de proto-industrialisation, un certain nombre de choses. Ils ont été impactés par le développement des chemins de fer, etc. On pourrait mettre en évidence, on pourrait le faire dans le Brabant, on pourrait le faire à Bruxelles, et on pourrait le faire avec un certain décalage en Flandre. Les Belges et les Wallons ont été les pionniers de l'industrie allemande. C'est eux, notamment les pieds de bœuf, je vois sourire quelques étudiants, mais n'oubliez pas que pieds de bœuf était avant d'être un fabricant de bière, c'était un fabricant de cuves en cuivre, et c'est comme ça qu'ils se sont franchis dans se diversifiant, ils sont devenus des brasseurs, mais avant ils fabriquaient des cuves, et donc des cuves pour machines à vapeur, et c'est eux qui ont été parmi ceux qui ont été apprendre aux Allemands à fabriquer des machines à vapeur. Il y a un ouvrage allemand de Hans Selling, publié il y a quelques années déjà, qui l'explique bien. Il y a toute une série de transferts de technologies et de méthodes vers la France. Il y en a eu vers la Russie, il y en a eu vers la Hongrie, il y en a eu à différents niveaux. Il y en a eu dans la période plus au XXe siècle, vers des pays plus lointains, comme la Chine, comme l'Égypte, etc. Et donc, il y a vraiment eu, à un certain moment, ces industriels ont participé à une expansion, une extension de l'industrie. Et cette extension mondiale était très importante, mais le mécanisme de transfert de ce qu'est la révolution industrielle en se disant « maintenant qu'on a la recette, il suffit de l'appliquer ». Eh bien, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu notamment en analysant les pays africains qui se sont dit à un certain moment, oui, on pourrait fabriquer une industrie sur base de ce qui s'est fait ailleurs. Et la difficulté, c'est ce que je vous montrais au départ, c'est ce que Brodel, sur quoi il attirait notre attention, c'est la longue durée, c'est la capacité de transformation qui, évidemment, se fait sur un moment très court qu'on a appelé révolution industrielle avec Nathalie Briavoine, mais qui en réalité se fait aussi dans le temps long, dans un long mûrissement, aussi bien au travers des tours de main qu'au travers de la culture de l'entrepreneuriat, qu'au travers de la culture du développement industriel. Et je pense que ça doit, ça a servi pour les pays du tiers-monde de constater qu'ils ne pouvaient pas le faire aussi vite qu'ils ne voulaient, même si maintenant un certain nombre de pays y arrivent. Ça doit nous aider aussi, ce modèle, pour comprendre comment on a une capacité de passer dans un autre type de société. J'évoquais en commençant les sociétés cognitives, la révolution de l'information, la révolution cognitive aussi comme étant un modèle. Et elle aussi, on a cru très vite qu'avec l'arrivée de l'ordinateur, qu'avec l'arrivée de l'informatique, on allait transformer la société. Et aujourd'hui, un certain nombre de prospectivistes concluent en disant que l'ensemble des mutations systémiques que nous connaissons depuis les années 60 ne représente que 20 à 25% des transformations que l'on doit attendre dans une mutation de cette ampleur. C'est dire que le monde que vous regardez depuis les années 60, même si vous ne regardez pas tous avec vos yeux, mais vous pouvez le regarder sur l'Internet ou à la télévision, etc., toutes ces transformations qui nous paraissent des révolutions, des changements majeurs, ils sont encore peu de choses par rapport aux 75% de transformations qui vont nous mener à cette autre société qui est devant. Vous voyez que l'histoire, elle nous aide à comprendre l'avenir, le présent et l'avenir, non pas directement en appliquant un modèle, mais en appliquant des interrogations qu'on peut avoir sur l'avenir. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez poser. Merci.
Je remercie Philippe Destat pour ce panorama si complet, si riche, et qui nous a fait aborder à partir de la révolution industrielle tellement d'aspects de notre société, et qui nous montre aussi évidemment particulièrement bien d'où nous venons et cet ancrage de notre société dans le 19e. Et je vous cède immédiatement la parole pour des questions ou des commentaires.
Merci. Professeur, est-ce que vous pouvez parler plus longuement sur le capitalisme de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge? Ça n'a pas commencé avec l'esclavage ou...
J'ai toujours le micro. C'est dangereux d'avoir un micro et de l'oublier. Mais ce capitalisme... Quel nom il prend? Est-ce qu'on peut l'appeler capitalisme à partir de quand? Je ne me souviens pas d'avoir parlé de l'Antiquité. Au Moyen-Âge, certainement. C'est-à-dire que à partir du moment où on développe du commerce, à partir du moment avec des approches urbaines, le mot d'ailleurs, manufacture, industrie, commerce, en anglais, c'est le même mot qui est utilisé par les analystes, par les historiens, lorsqu'ils parlent de ces périodes-là. C'est-à-dire que la distinction entre ce qu'est le commerce et ce qu'est l'industrie est extrêmement difficile, même au XVIIIe siècle. Grosso modo, on mélange l'un et l'autre. Alors, sur l'Antiquité, effectivement, la comparaison avec... l'esclavage, on la retrouve chez des théoriciens comme Marx qui disent, au fond, ils sont liés à un système qui est un système agricole. Et dans un système agricole, que ce soit les serfs au Moyen-Âge ou que ce soit les esclaves dans l'Antiquité, eh bien, il y a une caractéristique, c'est qu'il n'y a aucune rémunération. Et ça, c'est l'élément, c'est qu'on peut utiliser les gens qui travaillent pour l'industrie comme... qui travaillent dans d'autres domaines de façon tout à fait gratuite. Philippe Raxon nous rappelait la dernière fois d'ailleurs que jusque la fin du XIXe siècle, la domesticité n'avait pas de rémunération. Et donc, on est évidemment dans des systèmes qui se prolongent et qui sont hors, à ce moment, même si c'est dans les milieux bourgeois, qui sont hors du mécanisme tel que Adam Smith va nous le décrire. Voilà, mais je ne suis pas un spécialiste de l'Antiquité, donc je pourrais mal vous expliquer quel serait ce capitalisme. Mais ce capitalisme, c'est un investissement qui se fait dans un certain nombre de facteurs de production, dont de la main-d'œuvre. Dès le moment où on ne paye pas la main-d'œuvre, pour moi, on n'est pas dans un système capitaliste. Dès le moment où on la paye un petit peu, même trop peu, on entre dans ce système qui a été décrit. Mais si vous êtes dans un système d'esclavage, pour moi, vous n'êtes pas dans un système capitaliste.
Et alors, pour ce qui est du servage, alors, parce que même s'il n'y a pas de rémunération en tant que telle, il y a une rémunération en nature, en quelque sorte, enfin, la protection physique contre des attaques à ce moment-là ou des choses comme ça, même s'il n'y avait pas d'argent échangé contre le travail, est-ce qu'il n'y avait pas un service qui était rendu dessert envers les seigneurs, etc.
Oui, on peut dire qu'il y a une mise à disposition de la terre, il y a normalement la protection. On est dans un rapport, mais qui est un rapport féodal, qui n'est pas pour moi un rapport de capitalisme. Il y a un échange. Si vous voulez dire est-ce qu'il y a un échange, il y a un échange. Mais pour moi, il est d'une nature tout à fait différente. Et pour Adam Smith aussi, je pense. Karl Marx traite le sujet, mais en le traitant comme étant inhérent au type de société. Donc le servage, l'esclavage est lié aux sociétés agraires. Point final. Mais il y a peut-être dans la salle des antiquistes qui ont, où il y aurait des analyses là-dessus, mais je n'en suis pas.
Oui, je reviens sur John Cockerill et Guillaume d'Orange. Ils relèvent tous les deux de la même obédience philosophique. Et ça aussi joue un rôle, je pense, avec l'aspect financier associé au protestantisme. Et de même, je pense que les banquiers Bruckmann, originaires, je crois, de Verviers ou de Liège, en tout cas, s'installent à Bruxelles, comme vous l'avez dit, et constituent vraiment une dynastie protestante, financière, extrêmement importante. Et j'ai pensé aussi à Louis de Gers.
Oui.
Il s'insère aussi dans ce système. Oui.
Mais Louis de Gers part en Suède.
En Suède, oui.
Donc il part en Suède justement à cause de son protestantisme.
Oui,
parce qu'on il ne peut pas rester dans la principauté de Liège à ce moment-là. Donc il est obligé de quitter. Alors, ce que vous évoquez finalement, c'est toute l'analyse que l'on retrouve chez un certain nombre de sociologues ou d'économistes, on pense à Max Weber, etc., de se dire que la culture, pour faire large, ou la religion, est déterminante d'une attitude d'entrepreneuriat qui est particulière, et donc notamment les Anglais, les Hollandais ont un entrepreneuriat plus important. Mais ici, ça n'est pas marquant, parce que sauf les Anglais qu'on fait venir, mais la plupart des gens qui sont ici sont catholiques et donc ont un handicap majeur en termes d'entrepreneuriat suivant la grille de lecture que peut avoir un Weber ou un Sombart. Hein, Werner Sombart aussi fait des analyses de ce type-là. J'avoue que moi, je suis toujours resté assez sceptique par rapport à ces grilles de lecture. Je pense que les facteurs qu'on a évoqués, qui sont pas tous des facteurs choisis. J'ai pris le réchauffement climatique comme étant un élément, mais pour moi, c'est un facteur déterminant. Si vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous ne pouvez pas démarrer économiquement. Et ça, on le voit dans beaucoup de pays aussi. Je n'ai pas insisté beaucoup sur les facteurs de production qui étaient ici, mais ça fait partie aussi, il y a du charbon ici, il y a du minerai ici. Tout ça est déterminant. Mais même quand il n'y a plus de charbon, on a continué à faire de la sidérurgie. Et on continue à en faire. Quand il n'y a plus de minerais, on continue à en faire aussi. Et on a dit après, il faut une sidérurgie maritime parce que sinon, ça ne va pas. Mais en Lorraine, ça a été jusqu'aujourd'hui aussi. Donc, lorsqu'on se trouve au bout du canal Albert avec une connexion à Anvers, on est de la sidérurgie maritime ou presque. Vous voyez, je pense que les forces endogènes sont importantes ici, parce qu'on le voit, il y a toute une partie qui est basée sur la décision économique. Et s'il y a des économistes, ils le savent, l'élément majeur, le plus difficile, c'est pas tellement l'innovation, c'est pas tellement la créativité, c'est la décision qui doit être prise pour investir à un certain moment. On peut reporter aujourd'hui, hein, l'argent il y en a, les idées il y en a, la qualité des femmes et des hommes elle existe, il faut l'étincelle de l'investissement de gens qui se disent je prends un risque et j'entre dans une logique. Et ça, c'est probablement à un certain moment culturel. Mais est-ce que c'est culturel lié à la religion, à la philosophie, ou est-ce que c'est culturel lié à un besoin de la société? Je vous avoue que je n'ai pas résolu cette analyse-là. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont résolu. Sinon, on aurait démarré. Je dis ça dans une faculté d'économie. Mais on s'interroge souvent pour voir si l'économie est une science exacte ou pas. Si elle l'était, je crois que beaucoup de nos problèmes seraient résolus.
D'autres questions ?
J'ai une question en fait par rapport au développement à l'intérieur du bassin wallon. Sur un de vos slides, en fait, on voit le début des charbonnages dans la région de Mons, et puis avec un léger décalage, le début des charbonnages dans la région de Charleroi, puis le démarrage de la sidérurgie dans la région de Charleroi, et on voit que le même travail de diversification dans la région de Mons ne s'est pas fait. Je voulais savoir s'il y avait des recherches qui avaient été menées à ce niveau-là qui expliquaient ce phénomène.
Pas que je sache, l'idée de diversification implique pour moi aussi une volonté ou une prise de conscience à un certain moment que ça peut être fait. Ce qu'on observe, je pense, la différence, c'est surtout dans le domaine verrier. Hein, les verriers se développent très fort sur Charleroi à l'époque et atteignent d'ailleurs à la fin du 19e siècle un poids très important. Et sur les verriers, on voit un déplacement qui vient de, finalement, le long de la Sambre, pratiquement, de Namur vers, de Namur vers Charleroi. Donc il y a un mouvement qui se fait, mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté de diversifier qui se soit manifestée à ce moment-là. Ce sera d'ailleurs un des leitmotifs, notamment à la faculté Waroquet et dans l'entre-deux-guerres, c'est de faire des appels à la diversification dans le domaine de la céramique, dans toute une série de domaines qui ne seront pas entendus, malheureusement, ou pas suffisamment. Il y a eu des choses, mais pas suffisamment. Je pense que les secteurs sur lesquels on a investi sont restés des secteurs très, très traditionnels, même si à l'intérieur de ces secteurs, on a fait beaucoup d'innovations. On a essayé de faire beaucoup d'innovations. J'évoquais la Première Guerre mondiale. La destruction totale de tous ces systèmes technologiques a fait qu'on a modernisé considérablement au sortir de la Première Guerre. Mais ça n'a pas suffi à remonter au niveau de pionnier dans lequel on était avant la guerre. Parce qu'il y a la crise de 1929, parce qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale, parce que les conditions ne sont plus réunies. Et ce qui est vraiment le plus surprenant pour moi, c'est la conscience que les conditions ne sont plus réunies. Et qui fait même un peu peur. Hein. Je l'évoquais tout à l'heure, quand en 1905, vous avez un Laurent Dechesne qui est professeur à l'Université de Liège, qui vient dire qu'on a mangé notre pain blanc et qu'on va manger notre pain gris, ben, il faut avoir une drôle de préscience pour être capable de dire ça. Et il a été entendu. Donc, il a été entendu notamment par des partis politiques, il a été entendu dans un certain nombre. C'est ce que dira Max Dreschel ici aussi, dans les années 30. Ce sont des gens qui vont être entendus, qui vont être dans des cénacles, qui vont avoir une voix. Mais malgré tout, il y a une incapacité de renouveau qui va se marquer certainement jusqu'à la fin des années 70. Je ne suis pas comme l'Union Wallonne des entreprises qui, à Charleroi, il y a quelques jours, disait qu'avant 1999, il n'y avait rien eu qui s'était passé en Wallonie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis les années 1970. Le début des années 1970, même la fin des années 60. Des efforts gigantesques de reconversion, avec des moyens peut-être petits, mais on a essayé des tas de choses, y compris sur des choses qui nous paraissent nouvelles. Je pense à... On parle du plan Marshall, des pôles de compétitivité, etc. Les liens entre entreprises et universités. Il y a des efforts énormes qui ont été faits dans ces domaines-là dans les années 70, mais qui n'ont pas marché. Mais on n'est pas sûr que les pôles de compétitivité fonctionnent non plus. Hein. Je ne peux pas dire ça.
Si plus personne ne souhaite prendre la parole, je vais remercier encore une fois Philippe Destat pour son bel exposé.